sous-nutrition, c'était la question au cœur du sommet Nutrition for Growth à Paris. Ce matin, on se penche sur une solution, la production locale. Et puis avant de laisser la place à Marion Kazanov pour le début des RFI matin, on fera un crochet par le Gondwana pour retrouver Maman. Mais d'abord les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Arthur.
Le football des jeunes est début parfait pour le Maroc dans sa CAN U17.
Les Lionceaux de l'Atlas vainqueurs 5-0 du match d'ouverture face à l'Ouganda. Dans ce même groupe ce lundi, la Tanzanie et la Zambie s'affrontent à partir de 14h temps universel. Et puis à 17h TU, le Burkina Faso défie le Cameroun. Les U17 burkinabés dont c'est la 8e participation pour jusqu'ici 5 podiums et une victoire finale en 2011. 3e de la dernière édition en Algérie, il vit le titre cette année et ça passe par un bon match d'entrée contre les Camerounais, prévient le sélectionneur Oscar Barrault.
Avec 8 participations et un trophée, je pense que nous avons quand même fait le chemin et il est temps pour rentrer avec le deuxième trophée. Nous sommes très contents d'être favoris, ça veut dire que ce n'est pas tombé de façon fortuite. C'est un travail qui a été fait par nos prédécesseurs et qui ont bien fait le travail. On a quitté ici, la compétition passée en troisième position. On ne peut mieux faire que de repartir avec le titre. Donc, c'est bien dit, nous assumons pleinement notre statut de favori cette fois-ci.
Burkina Faso, Cameroun, coup d'envoi à 17h, temps universel. Dernier match de la journée dans cette CAN U17 au Maroc. Ça se passera à 20h, TU, entre l'Afrique du Sud et l'Égypte.
De la boxe française ou boxe savate, Antoine, a maintenant un peu plus de 3 semaines des championnats d'Afrique.
Et le Cameroun, un des pays majeurs de la discipline sur le continent africain, prépare très activement la compétition pour rivaliser avec, notamment, le Sénégal, l'Égypte ou encore le Maroc, Joël Wedem.
Depuis 2 semaines, la Fédération camerounaise de boxe savate organise des regroupements pour la préparation des championnats d'Afrique. Alex Ivan Kéné, champion d'Afrique en 2023 et 2024 dans la catégorie de 75 kg, vise le triplé.
Mes ambitions d'abord, c'est de conserver ma place en tant que champion d'Afrique dans ma catégorie. Nous sommes en train de bosser sincèrement dur pour que ça puisse être. Nos entraîneurs nous font travailler sur 2 plans, d'un psychotechnique, de 2 technico-tactiques, parce que le championnat d'Afrique aura lieu au Sénégal, sera en savate assaut, donc ce qui demande beaucoup de techniques.
Les regroupements se sont déroulés dans 4 villes camerounaises, dont Yaoundé et Bafoussam. À son terme, 15 athlètes sur les 150 en compétition seront retenus pour les championnats d'Afrique. L'entraîneur national Thierry Fongan revient sur cette préparation.
On a commencé par un tournoi championnat national aller, qui c'est non seulement d'ouverture de saison, mais également de sélection technique des athlètes. La sélection se poursuit ce week-end pour voir jauger la résistance des athlètes et permettre également à ceux qui sont aptes de pouvoir faire partie de la sélection nationale.
Les championnats d'Afrique de boxe savate sont qualificatifs pour les championnats du monde qui se dérouleront en juillet en Bulgarie. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et ces championnats d'Afrique de boxe savate, ils se tiendront eux à Dakar au Sénégal du 23 au 27 avril.
Antoine Grenier pour le Journal des Sports.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Lundi 31 mars 2025, à la une de l'actualité internationale, l'OMS considère le séisme de vendredi à Mandalay, dans le centre de la Birmanie, comme une urgence maximale. Et l'Organisation mondiale de la santé lance un appel pour trouver rapidement 8 millions de dollars pour sauver les survivants et prévenir les épidémies. L'aide internationale commence à s'organiser, venant notamment des pays asiatiques, alors que le dernier bilan fait état d'au moins 1700 morts. Ce matin, une réplique importante a eu lieu à Bangkok en Thaïlande. On en parle avec notre correspondant dans la capitale thaïlandaise dans le prochain journal. En Israël, le Premier ministre assure que la pression militaire sur le Hamas fonctionne et Benjamin Netanyahou affirme que le mouvement palestinien doit débosser les armes. Dans le même temps, l'armée israélienne a poursuivi hier ses frappes aériennes sur Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. En France, c'est aujourd'hui que Marine Le Pen doit être fixée sur son sort judiciaire et aussi sur son avenir politique. Le tribunal de Paris rend aujourd'hui sa décision très attendue dans l'affaire de détournement de fonds présumés et l'opposante d'extrême droite pourrait être déclarée inéligible et empêchée de participer à la prochaine élection présidentielle. On en parlera tout au long de la journée sur RFI.
Abidjan, 97.6 FM.
4h47 en temps universel. Toute la semaine, RFI est en Côte d'Ivoire. Ce matin, on part à la découverte de l'une des langues les plus rares du pays, le Sokia. 20 000 locuteurs seulement parlés à va-voix dans le centre du pays. Mais face à l'exode rural, certains craignent la disparition de ce dialecte. Alors comment faire survivre le Sokia ? RFI reportage, Benoît Almeras.
Ça veut dire quoi ?
Est-ce que vous allez bien ? Venez, nous allons manger. Parce que manger là, c'est le plus important d'abord.
Cette première leçon de langue Sokia, c'est Stéphane qui la donne. Ce planteur de cacao vit à Dediafla, l'un des 13 villages de sa communauté. Les Sokia y sont aujourd'hui minoritaires car les jeunes partent, selon lui.
Ils vont se chercher pour aller s'installer en ville. Il faut dire qu'au niveau du village aussi, il n'y a plus de forêt pour travailler.
L'exode rural fait craindre la disparition de la langue jugée trop difficile au profit du gourou et du français. Pourtant, le Sokia perdure en partie grâce à un petit livre bleu, une traduction du Nouveau Testament. À l'origine, Philip Saunders, un missionnaire écossais arrivé en pays Sokia dans les années 1970.
Il a commencé à interroger les anciens. Est-ce que vous avez l'assurance que dans 10 ans, cette langue va continuer à être parlée ?
Le pasteur Ambroise Calou a fait partie de la douzaine de traducteurs qui ont assisté Philip Saunders.
Il a proposé que lui, il allait traduire, il allait écrire, de sorte que ça soit maintenu sur un support écrit. La suite, c'est qu'on s'est dit, si c'est traduit en Sokia, eh bien, nous serons vraiment heureux d'avoir, nous aussi, notre Nouveau Testament.
S'ensuit un travail de fourmi, 30 ans, pour transcrire plus de 2000 mots de l'oral à l'écrit à l'aide d'un alphabet spécial.
Le B, c'est dit avec BH. On dit Béli. Quand on dit Béli, on dit frère.
La langue s'est même enrichie, selon Didier Bita, l'un des traducteurs.
Berger. Comme a dit berger dans notre langue. Chez nous, c'est celui qui poursuit les brebis. Brabré, bivouillon. Est-ce qu'il faut dire que l'Éternel est celui qui poursuit les moutons ? Non. Le bon berger, c'est Brabré Iriozoyon, celui qui veille sur les brebis. C'est vrai que la langue française ou bien anglaise, elle est belle, mais c'est encore mieux souvent de rester soi-même. Et nous le souhaitons aussi pour ceux qui vont venir après nous.
Et aujourd'hui, des habitants Sokia de Dediafla ont l'espoir de voir leur langue survivre à l'image d'Angéline.
Si vous suivez la Bible Sokia, vous avez parlé Sokia un jour, le Sokia existe.
Benoît Almeras, va voir RFI.
Voilà pour ce premier épisode d'une série de reportages de Benoît Almeras en Côte d'Ivoire. Épisode à réécouter sur RFI.fr. On vous en a parlé la semaine dernière sur RFI, le sommet Nutrition for Growth, la nutrition pour la croissance, se tenait à Paris. Acteurs politiques, banques de développement ou encore ONG tentent de faire avancer la lutte contre la faim dans le monde. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il manque 13 milliards de dollars chaque année pour financer la nutrition. Alors comment lutter contre la sous-nutrition ? Cela passe en partie par les chaînes de production et de distribution, et certains États ont fait de la production locale une priorité. C'est l'Afrique Éco du jour, signé Charlotte Cosset.
Face aux problèmes de sécurité alimentaire, les autorités éthiopiennes ont engagé de grands chantiers pour faire du Made in Ethiopia, et notamment transformer localement. Chibrou Kelbessa, assistant technique au ministère de l'Industrie éthiopien, pointe les défis.
Cette initiative vise à substituer les importations par de la production locale. Mais comme vous le savez, de nombreux acteurs rencontrent des difficultés financières et ils ne bénéficient pas du soutien d'autres partenaires privés. C'est là le principe.
Dans certains pays, de grandes entreprises de l'agro-industrie sont déjà présentes. Elles façonnent nos systèmes alimentaires, met en exergue un ministre ivoirien lors du sommet sur la nutrition à Paris. Avec, dans certains cas, des produits très transformés, très sucrés ou très gras. Pour Augustin Grand-Georges du Forum de Paris sur la paix, les entreprises peuvent avoir intérêt à évoluer et y être incitées.
Si jamais elles évoluent dans un environnement de marché qui le permet, qui récompense ces bonnes pratiques et qui aussi punit les mauvaises, elles ont un intérêt économique a priori d'être mieux disant sur le marché. Elles ont aussi un intérêt du point de vue de leur responsabilité sociale, et ça par deux aspects, à la fois pour l'image de l'entreprise, mais aussi pour des raisons financières, parce que les investisseurs de plus en plus commencent à s'intéresser à ces questions. Et on a discuté de l'intégration des critères nutritionnels pour les investisseurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les investisseurs regardent la qualité nutritionnelle des portefeuilles et des entreprises dans lesquelles elles investissent, pour que ce soit un petit peu un gouvernail taille pour les investisseurs.
Les États ont aussi un rôle à jouer, mais ils peinent encore à prioriser le secteur de l'agroalimentaire. Nutrition internationale mise elle sur le coût de l'inaction et a développé un outil pour le quantifier. Margot Stachny, vice-présidente des relations extérieures de l'ONG.
On voulait vraiment être capable d'aider des gouvernements à voir le coût de ne pas investir. L'outil, il est gratuit. Il est sur notre site. On donne aussi l'expertise pour aller avec eux faire ces recherches-là, pour leur aider, voir s'ils ont un montant d'argent limité ou ce qui pourrait avoir le plus grand impact pour leur investissement.
Lever des fonds privés et des fonds propres de plus en plus nécessaires dans le contexte de restriction des aides budgétaires, le Programme alimentaire mondial vient d'annoncer une baisse de 40% de ses financements pour 2025.
Charlotte Cosset pour Afrique Économie, à lire en longueur sur notre site RFI. 4h52 en temps universel. C'était il y a deux mois, la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, était prise par l'AFC M23, la capitale de la province du Nord Kivu, a été le théâtre de violents affrontements entre le groupe armé soutenu par le Rwanda d'un côté et l'armée congolaise appuyée par ses alliés de l'autre. Notre invité pour en parler ce matin est Myriam Favier, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Goma. Combien de victimes le CICR a-t-il enterré sur place ? Myriam Favier est au micro d'Esdras Tikoumana.
On a, avec la Croix-Rouge de la RDC, ramassé des corps, donné à ces corps une sépulture digne. C'était plus de 900 corps qui ont été enterrés par la Croix-Rouge et le CICR. Bien sûr, il y a d'autres victimes. Les victimes, c'est également les blessés. Nos structures de santé CICR étaient à plus de 400% de suroccupation à un moment. Il y a eu plus de 1900 patients soignés depuis le mois de janvier. C'est trois fois plus que ce qu'on a pu avoir sur les années précédentes. Par exemple, en 2022, il y avait environ 600 blessés de guerre.
Que disent donc ces chiffres par rapport à l'intensité des combats ?
On voit que ces chiffres démontrent d'affrontements qui ont été très intenses et évidemment de conséquences humanitaires importantes sur la population, sur les femmes, sur les enfants. Il y a des blessures par balles, des blessures par engins explosifs, énormément de traumas crâniens qui ont été mentionnés. Quand il s'agit d'engins explosifs, ça veut dire des amputations multiples, que ce soit sur des adultes ou des enfants dont l'éducation est certainement ensuite suspendue pour qu'ils puissent se soigner. Donc le CICR a par exemple réouvert trois maisons d'écoute dans le but de soutenir la population civile par rapport à l'utilisation d'artillerie et du trauma que les gens ont vécu en ville et dans les alentours.
La chef de la sous-délégation du CICR à Goma, notre invité Afrique ce matin sur RFI. Entretien à écouter en intégralité dans un peu moins d'une heure. Avant de retrouver Marion Kazanov pour le début des RFI Matin, un coup d'œil à notre direct sur notre chaîne YouTube. Vous nous écoutez de Goma, de Kolwezi ou encore du Cameroun. Merci à vous de vous réveiller à l'écoute de RFI. D'ici là, avant de retrouver Marion Kazanov, on fait donc un détour par le Gondwana où on a rendez-vous avec Maman. Maman dans la cour de récré, c'est le grand chambardement.
Oui, notre cher étant en cours de récré ne s'attendait pas à un tel début d'année 2025. Bien sûr, avec le retour dans le bureau ovale de Donald, l'homme à la peau orange, et le carré VIP, et le préau, et surtout, et le sud global, tous pressentaient que les choses n'allaient plus être comme avec Joe, le boss sorti du carré VIP, ex-bras droit de Barack, gentil papy qui sucrait trop les fraises. Mais personne n'avait imaginé le dixième du tsunami qui déferle en ce moment sur toute la cour de récré. Notre cher étant en cours de récré, avec son Groenland et son Donbass, son canal de Panama et sa bande de Gaza. Comme dirait un directeur d'institut de sondage, prenons très vite un cliché à l'instant T de notre cher étant en cours de récré parce que tout est en train de changer. C'est le grand ménage de printemps. Dans le carré VIP et le préau, on est en train de bouger les meubles mieux et plus fort. On commence à réaliser que Donald, Make America Great Again, et son désormais complice, Vlad le Costaud, sont décidés à faire bouger les murs de la cour de récré comme à Yalta, comme à la conférence de Berlin il y a 140 ans. Jetons alors un coup d'œil à ce cliché de notre cours de récré à l'instant T, t'es comme tout de suite, t'es comme tadadam, parce que tout change en un clin d'œil, comme un post d'Elon sur X. Sur ce cliché, il y a juste quelques semaines, on avait ce paysage familier de notre cher et tendre cours de récré, fossilisé pile poil à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec au centre de la cour de récré, le carré VIP, toujours dominé par le locataire du bureau ovale, et ses repéros, Manu, le jeune homme de 43 ans, Kerr de London, Olaf le viré, etc. En face, le préau, fief de Vlad le Costaud, Xi Jin, Maître Shaolin et leurs acolytes, Recep d'Istanbul, Hassan de Téhéran et Kim de Pyongyang. Carré VIP et préau se sont toujours regardés en chien de faïence, chacun jaloux de sa surface de réparation. Et juste entre les deux, le sud global, assis dans les tribunes, dans la peau d'un spectateur de tennis, regardant à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, comme un essuie-glace. Eh ben, sous les coups de boutoir de Donald, je suis de retour et ça va faire mal, tout ceci est en train de voler en éclats. Le normalement boss du carré VIP a confirmé qu'il n'en voulait plus. Désormais, son pote, ben c'est le boss de la bande d'en face, Vlad le Costaud, celui contre lequel Manu, Kerr et toute la bande du carré VIP sont en fight depuis qu'ils squattent un coin du jardin de leur protégé Z de Kiev. Donald, sur qui tous comptaient pour leur défense, leur a dit de se débrouiller tout seul et que Z de Kiev n'a qu'à signer la paix à Vlad, avec Vlad sans lire le contrat. Pire, Donald a dit à Mette de Copenhague, membre du carré VIP, ben qu'elle sera obligée de lui céder le Groenland, sinon il le prendra de force parce qu'il a promis de rendre America great again. Les murs bougent, les amis. Dans le préau, le grand gagnant, ben c'est Recep d'Istanbul qui, après avoir été longtemps snobé par les gars du carré VIP, est au centre de toutes les dragues parce qu'il a réussi à être des deux côtés du Bosphore, dans le préau et le carré VIP en même temps. Quant au sud global, il compte les points en tribune, tout en sachant que tôt ou tard, veut ou pas, il devra descendre sur le court de tennis pour le tie-break. À demain.
À demain, Maman. Et c'est donc au Gondwana que s'achève cette demi-heure d'actualité africaine et que RFI Matin démarre. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet. On parlera ce matin des suites du séisme en Asie du Sud-Est. Des répliques ressenties ce matin à Bangkok, 3 jours après le tremblement de terre qui a fait au moins 1700 morts en Thaïlande et en Birmanie. On verra qu'en Birmanie, pays verrouillé par une junte militaire, les secours internationaux ont du mal à s'organiser pour se déployer, notamment à cause de la situation sécuritaire. À tout de suite sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
toujours plus, toujours mieux. Se fixe-t-on trop d'objectifs dans la vie ?
Demain,
rediffusion de notre émission sur l'IA et la surveillance policière. Comment concilier liberté et sécurité ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Nouveau rendez-vous sur RFI.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet.
Chaque week-end, je vous raconte avec des mots et avec des sons comment, à travers leurs œuvres, les écrivains, les dessinateurs et scénaristes, les metteurs en scène, les comédiens, les cinéastes, les plasticiens ou les musiciens se font l'écho des soubresauts et des tendances du monde d'hier et d'aujourd'hui, et peut-être de demain.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tous les samedis et dimanches à 18h40 TU sur RFI.